Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 23 avril 1990.
J'espère que vous êtes d'attaque. Pour commencer un nouveau trimestre. Un trimestre très rapide du reste, hein, parce que il y a des fêtes successives. Surtout la fête de la Pentecôte. Et puis l'ordination. Alors nous allons essayer pendant ces 2 mois de travail, pratiquement, d'entrer à fond dans ce problème. Nous avons vu la topique. Nous avons remarqué que c'était au cœur de toute la réflexion philosophique occidentale, avec un apport de la révélation chrétienne qui avait mûri le problème, sûrement d'une manière très particulière. Qu'est-ce que c'est que la personne? Alors après cette topique, maintenant il s'agit de répondre autant qu'on le peut à ce problème qui s'oppose à nous avec une telle force. Nous avions commencé cette réflexion. Selon la tradition judéo-chrétienne, la diversité du langage, c'est une punition de Dieu pour nous empêcher de nous élever trop dans l'orgueil. L'homme désire s'unifier, la tour de Babel, et devenir alors comme Dieu. Alors Dieu fait la punition, la diversité du langage. Il est évident que la diversité du langage est un lieu tout à fait particulier pour qu'on ne se comprenne pas. Vous voyez, aujourd'hui, on parlerait de la diversité des cultures. Mais le langage est quand même le lieu principal de la culture. Ça, je crois qu'on peut dire, c'est le lieu principal. Le langage et l'art. Alors, il faudrait montrer la différence entre l'œuvre d'art et le langage chez Aristote. Puisque c'est justement ça qui est la confusion chez Heidegger. J'ai dit ça, c'est parce que je crois que là, il y a un problème très intéressant pour nous, auquel on doit tenir compte, et c'est ce que nous regardons dans le problème de la personne, qui est le lieu principal. Donc, pour Aristote, le langage est un signe, symbolon, un symbole. C'est plus juste dire que le langage est un symbole. C'est un symbole qui exprime ce que je pense, qui reflète ce que je pense. Mais c'est un symbole conventionnel. S'il est conventionnel, il y a donc un apport extrinsèque à la connaissance qui fait que le langage est quand même un peu une œuvre d'art. C'est pas un signe naturel. Le geste est beaucoup plus signe naturel que le langage. C'est pour ça que le geste est le même dans toutes les civilisations. Regardez un homme africain, européen, américain, qui commande un chien. Il fera toujours le même geste. Allez, va. Il fera toujours le même geste. Il n'y aura pas le geste européen pour le chien. Qu'est-ce qu'il va dire au chien ? Fais le beau. C'est le même geste. Quand vous donnez, frappez quelqu'un, lui donne une bonne tape. Je ne sais pas s'il y a une tape européenne, une tape africaine. Ou américaine. Voyez, le geste, donner la main, c'est le même, c'est très curieux, alors que la parole est diverse. Alors, le geste et la parole sont quand même très très proches. Vous vous servez du geste pour exprimer, pour aider. Le geste est un support de la parole. Il y a une manière, vous savez, très particulière de parler, surtout quand on veut prêcher, qui fait qu'on ne fait aucun geste. Il y a des prédicateurs qui ne font aucun geste. C'est erratique. Ils ne bougent pas leur tête. Immobile, complètement. C'est la statue de bronze qui parle. Alors ça fait assez froid. C'est-à-dire qu'au contraire, vous voyez un méridional prêcher, c'est juste. Un Brésilien parler, c'est... Il sent de sa chair, il descend et puis remonte. Mais c'est tout à fait autre chose. Le geste joue alors un rôle presque capital. C'est très intéressant de voir comment la parole est accompagnée du geste, comme la parole est accompagnée du chant. À toutes les querelles, savoir si le chant passe avant la parole, si la parole passe après le chant. C'est des querelles extrêmement intéressantes au point de vue liturgique. Bon, c'est le problème de la parole, il faut comprendre ça, philosophiquement. Alors il y a peut-être un chant platonicien et un chant aristotélicien, c'est possible qu'il y ait comme ça des choses diverses, où le problème de la parole et le problème du chant ne sont pas liés de la même façon. Ça ne m'étonnerait pas du tout, ça n'a pas été étudié radicalement, parce que la liturgie vient après. Il y a d'abord le problème humain. philosophie de la communication. Vous communiquez par la parole, vous communiquez par le geste. C'est les deux grandes communications. Et les deux donnent la présence. Les deux. Alors, il y a le geste qui est un signe naturel et la parole qui est un signe conventionnel. Il y a quelque chose de naturel quand même dans la parole. Pas uniquement conventionnel. Il y a un mélange de quelque chose de naturel et quelque chose de conventionnel. Et la parole est ordonnée à la signification. La parole supplée. Et c'est pour ça qu'Aristote donne l'analogie de l'argent, qui est une analogie extrêmement intéressante et très curieuse. La monnaie. La monnaie permet la communication. Il y a toujours le problème de la communication. Il faut que vous ayez un secteur communication. Je dis, c'est impossible autrement. C'est-à-dire qu'on fait des cours sur la communication, c'est très très bien. Et il faut essayer qu'est-ce que c'est que la communication, qu'est-ce que c'est que la philosophie de la communication, qu'est-ce que c'est que la théologie de la communication. Une thèse sur la communication. Alors le lieu, c'est évidemment, vous avez la parole, vous avez le geste, vous avez l'argent. Vous voyez l'économique. La communication fondamentale aujourd'hui, c'est le marché. Le mammouth. C'est le marché. Le lieu de tous les vols, le lieu de toutes les communications, le lieu de toutes les rencontres. L'agora, nouveau, moderne, économique, c'est l'agora. Pour le grec, l'agora était le lieu où on parlait. Pour le parisien, c'est le café, c'est le lieu, le thé, on se rencontre. Le thé déstigmatisé, on se retrouve là, les gens particuliers. De la rencontre amicale. Et puis il y a aujourd'hui le mammouth, ce qui montre un progrès dans la civilisation. Parce que le lieu n'est plus la parole, mais c'est le commerce. Là, on se retrouve. Alors, il faut comprendre ces lieux de communication, ces différents lois de communication. Avant, il y avait... C'est la même chose, vous pourriez reprendre tous les instruments de communication. Depuis l'âne, parce que je crois que c'est peut-être l'âne qui est le lieu premier, principal et fondamental de la communication. Je crois. Il faudrait regarder qu'est-ce qui est avant l'âne. Parce que le chameau est quand même un peu plus complexe que l'âne. Parce qu'il est un peu plus grand et puis c'est une bête un peu plus noble. Terriblement aristocratique, le chameau. Je vais le regarder, le chameau. L'âne, au contraire, c'est le peuple. C'est le bon peuple. C'est la démocratie, là. C'est tout à fait. Alors, il y a l'âne. C'est toujours la communication et tout ça est touché. La parole est commandée par ça. Et la culture, c'est le lieu de la communication. Alors, l'âne, le chameau. Puis après, la brouette. Et puis progressivement. TGV, pour arriver à l'avion, pour arriver à l'hélicoptère, pour arriver à tous les lieux de communication. Alors la question du lieu et de la vitesse. Alors, dans toutes ces communications, je crois que la parole a le lieu principal. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit que la parole peut être un moyen de communication. Ou la parole peut être un moyen d'enseignement. L'enseignement est encore une communication. On communique avec les autres dans un but particulier d'enseignement. Et tout ça est très lié à la culture, très lié au milieu d'aujourd'hui. L'inculturation, c'est le point de vue de la parole, fondamentalement, avec l'art. Pour nous, Heidegger, la parole et l'œuvre d'art sont presque identifiées. C'est très très curieux. Par le fait même pour elle-même. J'étudie une œuvre d'art pour elle-même. C'est évident. Alors, pour Heidegger, on étudie la parole pour elle-même. D'où philosophie de la parole. D'où philosophie de la communication. Vous voyez, il faut bien comprendre ce phénomène particulier devant lequel on se trouve aujourd'hui. Pour nous, la parole n'est qu'un symbole. Donc je ne peux pas m'arrêter philosophiquement à la parole. Mais je le prends comme un signe, comme un lieu intéressant qui me donne peut-être une possibilité d'aller vers poteau indicateur. Quand je suis dans un secteur que je ne connais absolument pas, les poteaux indicateurs sont très importants. Quand je connais très bien, je ne fais plus aucune attention aux poteaux indicateurs. Dans votre conduite automobile, de la communication, c'est comme ça qu'on agit. Quand vous êtes dans la nuit et que vous ne connaissez pas le lieu, les poteaux indicateurs, c'est le salut. Oh, enfin, un signal. On le cherchait depuis des kilomètres et des kilomètres. Enfin. Et quand on ne connaît pas, on comprend très bien que les poteaux indicateurs sont jamais parfaits. On en fait toujours la critique. Quand vous connaissez, vous n'en faites plus aucune attention. C'est très curieux. Et c'est comme ça dans la philosophie. Quand vous connaissez très bien quelque chose, vous ne faites plus attention à la parole. Vous regardez l'expérience tout de suite. Et la réalité. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes très attentif à la parole. Alors ce qui prouve, vous voyez, que le monde d'aujourd'hui, qui fait une philosophie du langage, est dans une ignorance énorme. Il s'occupe que des signes. La réalité, elle est trop mystérieuse. On en a peur. C'est très curieux. La superculture, comme le supermarché, la superculture fait qu'on a peur de la réalité. Et le monde d'aujourd'hui a peur de la réalité. Et il est bien dans un lieu. C'est ce que Nietzsche disait. Nietzsche a très bien saisi ça. Nietzsche dit, avec beaucoup de force, quand je suis dans une ville, tout me parle de l'homme. Quand je suis au désert, quand je suis auprès de l'océan, quand je suis sur une montagne, au sommet d'une montagne, tout me parle de Dieu. Alors j'en ai peur. Puisque depuis le premier péché, l'homme a peur de Dieu. C'est la conséquence immédiate du péché. Adam, dès qu'il a péché, a eu peur de Dieu. Alors on identifie, vous voyez, le réel et Dieu. On fait une espèce de blocage entre les dieux. Ce qui est juste, c'est que seule la réalité me permet de conduire à Dieu. L'art ne me conduit pas directement à Dieu, il me conduit à l'homme. Et le langage me conduit à l'homme, ne me conduit pas à Dieu. Et alors on a peur de Dieu, on a peur du réalisme. D'où on se met dans le cocon du langage, le cocon de l'art, le cocon de l'économie, le cocon des intermarchés du mammouth. On se met là-dedans. Et là, on est à l'aise, puisqu'on est de l'homme à l'homme, horizontal. On a une force intense du vertical. On a peur de trouver Dieu sur son passage. On a peur de rencontrer Dieu. Notre monde d'aujourd'hui est un monde de peur. Ce qui explique, du reste, de temps en temps, ces violences. Parce que quand on est en face de quelqu'un qui a peur, il devient violent. Tous on est comme ça. Nos réserves de violence proviennent de nos peurs. Et alors, quand on a peur, mais prenez le petit chien qui aboie, quoi. Ça, il nous montre exactement ce que c'est. Un chien qui aboie, c'est qu'il a peur. C'est pas parce qu'il veut vous manger. C'est parce qu'il croit que vous allez le manger. Alors il aboie. Et vous avez peur de son aboiement. Alors que vous devriez dire, mais ma pauvre bête, mais non, je viens de caresser. Alors, pour nous, la parole est un signe, un symbole. Alors je me pose la question, dans le langage, y a-t-il un lieu particulier où je vois ce problème de ma personne? Le jeu, le moi. Quand je dis le moi est haïssable, le jeu laissez jamais une lettre en disant « Je suis là, je vous écris ». Les gens cultivés ne commencent jamais par « je ». Parce qu'on ne commence pas, c'est pas poli de vous appeler. C'est moi, regardez-moi, je suis là. Mais dans le langage, on trouve ces affirmations très nettes qui sont comme un centre. Tout se ramène à ce jeu. Et le jeu est plus fort que le moi. Quelle différence y a-t-il entre le moi et le jeu dans le langage français? Est-ce que nous faisons une philosophie à partir de notre langage français? Faites la même chose pour l'anglais, pour l'allemand, pour l'européen. Puis dépassez si vous êtes sémite. Prenez ça. Regardez pour l'arabe. Est-ce que vous retrouvez tout le temps le je et le moi? Et quelle différence y a-t-il entre le je et le moi? Puisque c'est une chose qu'on s'intéresse aujourd'hui. Du temps de saint Thomas, c'est pas intéressé. Grèce. Ego. En latin, le je et le moi. Parce que c'est curieux, hein, que c'est un problème qui s'est élevé. Je crois pas c'est si vieux que ça en philosophie. Et c'est intéressant de voir que dans le langage, il y a les deux. Je vais vers ceci. Moi. Vous voyez tout de suite la différence. Hein. Je vais vers ceci. Quand vous dites je vais vers ceci, vous exprimez avant tout le point de vue de l'action. Je suis moi. Le moi vous met une auréole. Tout tourne autour de vous. Tandis que le je est beaucoup plus engagé dans l'action. Il me semble. Si vous me disiez le contraire, j'accepterais. Parce que dans le langage, oui, c'est relatif. Et ce serait peut-être pas la même chose du tout dans le langage du XVIIe siècle. Et dans le langage canadien. Regardez, le je et le moi. Bon, alors, faites ce petit problème. C'est important, au point de vue philosophique, de réfléchir. Pas trop longtemps, mais pas rester ça indéfiniment là-dessus. Donc, il y a un lieu. Je vois qu'il y a un problème nouveau. Le je et le moi. Il faudra philosophiquement essayez d'expliquer le je et le moi. Et le toi. Moi et toi. C'est des livres de spiritualité, moi et toi. Il y a comme ça certains livres de spiritualité. Ça dit tout à fait du reste le degré de la spiritualité quand on met moi et toi. On voit très bien. Le vouvoiement et le tutoiement, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça. Si du vouvoiement, du tutoiement. C'est les pères jésuites qui ont commencé. Puis une fois que les pères jésuites ont commencé, les dominicains ont dit tiens, on fait ça. Je me souviens, il y a eu un chapitre comme ça, en communauté. C'était le père Forestier, même le grand scout devant l'Éternel. Il y avait un chapitre sur le vouvoiement et le tutoiement. C'était très amusant. Parce que le père. Vraiment, grand ami du père ton cœur, le père Forestier. C'est le temps des grands scouts. Père ton cœur. Alors, le père Forestier, en chapitre, il dit oui. Il y a le vouvoiement et le tutoiement. Ça fait partie du langage, n'est-ce pas? Alors, c'est curieux. Sur le zinc, on se tutoie. C'est évident, ça ne m'aurait pas très bien. On se tutoie. Et quand la Vierge Marie apparaît à Bernadette, elle dit « Vous pourriez venir ici demain. » Quand elle répète ça à son curé, le curé dit « Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» C'est du reste assez joli comme lieu. Le vouvoiement de Marie à Bernadette. Ça ne veut pas dire qu'on doit se vouvoyer. Le vouvoiement de Marie à Bernadette. C'est vrai, il n'y a pas l'idée quand même au Saint-Père de dire « Ah, tu as bien dormi. Tu as l'air d'être très fatigué. » Non. C'est curieux, mais c'est très... Et puis alors ça change selon les langues. ça, c'est le langage qui est un fond de culture et d'interaction, d'intersubjectivité, et qui joue beaucoup. Ça joue énormément sur nous. Deuxième lieu, le point de vue des traditions religieuses. Je vois que dans la tradition religieuse judéo-chrétienne, qui est ma grande tradition religieuse, Dieu, à un moment donné, dit « Je suis ». Je suis celui qui est. Et ça a été un lieu très discuté, à la manière des pères de l'Église, à la manière des exégètes modernes. C'est intéressant. J'ai vu une fois une thèse de 50 pages là-dessus. Et c'est très intéressant de voir que de fait, en effet, c'est un lieu qui a été très discuté. Et puis dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis ». Et dans l'évangile de Jean, Jésus dit constamment « Je suis la lumière. Je suis la résurrection. Je suis le Fils de Dieu. » Le « Je suis » prend une très grande importance. Donc, dans les traditions religieuses, le « Je suis »
qui ne sont pas intelligents.
Et il y a le gros de la foule. Description psychologique. Ah, c'est pas ça du tout. Je n'ai fait aucune enquête psychologique. C'est pour ça que je peux le dire, j'ai fait une enquête psychologique. Je ne mets même pas de note d'examen exprès pour ne pas faire cette enquête psychologique. Ils sont tous intelligents. C'est mieux. Ils sont tous intelligents, mais chacun a une intelligence différente. Alors si je juge au niveau métaphysique, je dirais, il y en a tant qui sont capables de métaphysique, il y en a tant qui en sont incapables. Si je me mets maintenant du côté artistique et du côté artisanal, il y en a tant qui sont capables de faire la cuisine. Surtout ne demandez pas un tel, parce que pendant toute la semaine, tout le monde sera dans l'abomination de l'abomination. Et pourtant, il faut être intelligent pour faire la cuisine. C'est une intelligence particulière, artisanale. C'est la même chose, si je demandais au frère Joseph de jauger la communauté au niveau du menuisier, de l'artisan. Qu'est-ce qu'il dirait? Pas beaucoup de capables dans cette communauté. Il y a peut-être un ou deux qui seraient capables de faire une chaise. Les autres, des spéculatifs. Et on jauge l'intelligence de diverses manières. C'est très vrai. Point de vue économique, on dira, tiens, celui-là, oui, capable de faire un bon comptable. Les autres, non. Incapables. Ça, c'est jauger l'intelligence, selon. Bon, psychologiquement, je peux jauger aussi le cœur. Je peux faire des tests. On pourrait vous demander au début, première semaine du noviciat, le père médecin m'amuserait beaucoup. On ferait des tests. Et on verrait. Et alors on changerait comme ça. On ferait des tests différents. Mais la psychologie voit les interactions au point de vue passionnel, au point de vue de l'intelligence pratique. L'intelligence spéculative, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Parce que le point de vue spéculatif dépasse le conditionnement. Le point de vue affectif, oui, alors là, merveilleux. On est très proche de la psychologie. Et le point de vue artistique aussi, très proche de la psychologie, mais spéculatif beaucoup plus loin. Voilà. C'est intéressant de voir jusqu'où peut atteindre la psychologie. Et puis la limite. Je vous dis, la psychologie aujourd'hui est quand même très tournée vers le point de vue de la personne. Et même, il y a des psychologues qui prétendent pouvoir parler entièrement de la personne et qui n'acceptent rien d'autre. Ça existe. C'est la personne qui noue toutes les recherches psychologiques. Alors on accepte plus ou moins autre chose que la psychologie. Au contraire, on s'enferme uniquement dans la psychologie. Il y a des sessions en France, et elles sont assez nombreuses. Je pourrais vous donner les adresses pour ceux qui désirent. Il y a des sessions au niveau construction psychologique. Construire notre psychologie autour de la personne. Je crois que c'est les trois grands lieux que nous devons regarder pour montrer que le problème de la personne est central dans notre vie humaine et dans notre vie religieuse. C'est central. Ça obtient un lieu très très important. Et on voit tout de suite qu'il y a diverses manières d'aborder le problème de la personne humaine. Et que par le fait même, la personne humaine doit avoir des visages très différents, des masques très différents, des figures très différentes. Vous voyez, je vois tout de suite pourquoi le masque artistique du théâtre et la personne sont liés. C'est parce que le masque, la figure, donne une certaine physionomie de quelqu'un, une physionomie, une figura, et que la figura est très liée à la personne. Et psychologiquement, c'est évident qu'on étudie la figura, la figure d'un être. Et en étudiant la figura d'un être, on touche sa personne, mais on touche peut-être uniquement la manifestation de sa personne, et pas plus. C'est déjà beaucoup. Comment une personne se comporte devant les autres et comment est-elle quand elle est seule en face de Dieu? C'est pas la même chose. Alors maintenant, je me pose le problème au plan philosophique. L'expérience. Toute ma philosophie est une philosophie de l'expérience, impliquant le jugement d'existence. Et la métaphysique était justement sur, alors, un gros problème, deux problèmes au plan philosophique qu'il faut tout de suite traiter. Y a-t-il une expérience de ma personne? La personne doit-elle être traitée en éthique, philosophie de la vie, ou en métaphysique? Alors, premier problème, y a-t-il une expérience de la personne? Une expérience philosophique propre? Alors, je prends ici les traditions religieuses qui parlent du « je suis ». Tous, nous pouvons avoir cette expérience du « je suis ». Et quand vous avez l'expérience du « je suis », est-ce que vous êtes en face de quelque chose d'irréductible au reste? Y a-t-il une expérience du « je suis » Le langage implique le « je suis », donc il doit y avoir quand même une connaissance particulière du « je suis ». Alors, essayons de découvrir cette expérience propre du « je suis ». Quelle différence y a-t-il entre « ceci est je suis » C'est la première chose à déterminer. « Ceci est un point de départ absolument commun à l'égard de tout. Toutes les réalités que vous expérimentez est une expérience interne ou externe. Vous dites « je suis ». Ceci est. Donc c'est ce qu'il y a de plus commun, de plus fondamental. Tandis qu'au contraire, quand vous dites « je suis », ah, vous êtes en face d'une expérience interne et externe. Vous vous souvenez le début de la métaphysique? Le début de la philosophie consiste à discerner la différence qui existe entre l'expérience interne et l'expérience externe. J'ai conscience de telle affirmation. Des consciences, et j'affirme. Autrement dit, dans l'expérience interne, il y a une conscience très aiguisée de certaines opérations qui toutes sont en relation avec l'intelligence. C'est l'intelligence le lieu de la conscience. Et tout ce dont j'ai conscience est relié à l'intelligence. L'expérience interne. Puis l'expérience externe est au contraire reliée aux sensations. Il y a une différence entre les deux. Et je commence ma philosophie par l'expérience externe, parce que cette expérience externe est plus exhaustive et plus générale que l'expérience interne. Je n'exclus pas l'expérience interne, mais je la mets en second lieu. Parce que l'expérience externe, tout le monde peut la faire. L'expérience interne, c'est quelque chose qui m'est tout à fait propre. Et je veux faire une philosophie qui soit objective et communicable. Quand je dis « je suis », je vois que l'expérience interne est absolument capitale. Quelqu'un d'autre ne peut pas dire à ma place « je suis ». Tandis que quand je dis « ceci et ce livre existe », quelqu'un d'autre peut le dire aussi. Tandis que quand je dis « je suis », personne d'autre ne peut le dire à ma place. Ah, c'est quand même quelque chose, ça. Je suis une personne. Je suis un être particulier. Et ma très grande joie, c'est que personne ne peut me remplacer. Je suis peut-être le petit piou-piou dernier dans le travail. Mais quand je dis je suis, Si dans le « je suis » est intégré ceci, il y a donc une objectivité à cette affirmation « je suis ». Je ne suis pas dans une pure subjectivité. Mais la subjectivité paraît première dans le « je suis ». Mais cette subjectivité va impliquer ce domaine particulier de « mon corps existe ». Dans le « je suis » premier, c'est mon intelligence. Je suis un être sensible qui pèse tant de kilos, qui a telle dimension, qui est né à telle... Ça c'est je suis. Quand vous faites votre... Quand vous regardez votre carte d'identité, hein, votre carte d'identité c'est vous. Or c'est votre corps. On ne dit pas tellement dans la carte d'identité. Il a une intelligence remarquable. Il y a que le père Garrigou, Lagrange, qui pouvait dire ça. À un père d'aller au-devant de sa sœur qui arrivait à la gare de Rome pour qu'elle ne perde pas de temps. Il avait demandé au père d'aller au-devant d'elle. Le père dit, mais mon père, comment je vais la reconnaître? Oh, vous la reconnaîtrez tout de suite, elle est très intelligente. Et on se trompe de temps en temps. Alors vous voyez ça, dans le « je suis », il y a l'intériorité et il y a l'extériorité. Il y a les deux. Et donc le « ceci est intégré dans le « je suis », ce qui est capital. Je suis un être existant, et j'existe en mon corps. Et par mon corps, tout le monde voit que j'existe. Et c'est un corps vivant. Alors, est-ce que le cadavre encore partie du « je suis ». Si je vais jusqu'au bout, il est évident que le cadavre ne fait plus partie du « je suis ». Il y a une séparation. Donc je porte un cadavre en puissance. Ça, on reviendra là-dessus. Ça, c'est quand même très intéressant de savoir jusqu'où va du « je suis ». Ce qui est sûr, c'est que le « je suis » m'oppose aux autres, me distingue des autres. Mais il y a une expérience que je ne peux pas nier, une expérience au niveau de l'être. C'est curieux. Évidemment, je peux, exactement comme j'ai fait au début de la métaphysique, et nous reviendrons là-dessus, je peux, quand je dis « je suis », mettre tout l'accent sur le « je », alors j'aurai moi. Ou tout l'accent sur « je suis l'être ». Alors à ce moment-là, je rejoins ceci. Et ça, c'est très important, de bien comprendre que je suis capable d'avoir ces deux types d'expériences dans le « je suis ». Et c'est peut-être cela qui va me permettre de comprendre comment le « je suis » peut être traité de très grande, dans une très grande diversité. Et comment le je suis, quand je mets l'accent sur le je, alors je me sais.